Radio Vatican, France-Afrique.
Chers amis, bienvenue à l'écoute de cette émission dont voici les principaux titres. L'actualité de l'Église a été marquée samedi 6 mars par la poursuite du voyage apostolique du pape en Irak. L'actualité politique et sociale en Afrique nous conduira au Sénégal, en Algérie et au Congo, entre autres. Commençons par l'actualité de l'Église avec la semaine du pape présentée par Camille Moukosso.
Le pape a présidé samedi la messe à la cathédrale chaldéenne de Saint-Joseph à Bagdad lors de la deuxième journée de son voyage apostolique en Irak. Dans son homélie, le Saint-Père s'est focalisé sur la sagesse, le témoignage et les promesses, trois mots qui ressortent de la liturgie de la parole de cette célébration. La sagesse sur les terres irakiennes, a fait remarquer François, a été cultivée depuis des temps anciens. Jésus, la sagesse en personne, déclare bienheureux le pauvre, ceux qui pleurent et ceux qui sont persécutés. Vivre les béatitudes, a-t-il fait savoir, c'est rendre éternel ce qui passe, c'est porter le ciel sur la terre. Pour pratiquer les béatitudes, nous avons besoin du témoignage quotidien. Bienheureux est celui qui vit avec douceur, qui pratique la miséricorde là où il se trouve, qui maintient les cœurs purs là où il vit. Pour devenir bienheureux, il n'est pas nécessaire d'être des héros des temps à autre, mais des témoins chaque jour, a fait remarquer l'évêque de Rome. La sagesse de Jésus qui s'incarne dans les béatitudes demande les témoignages et offre la récompense contenue dans les promesses divines. Les promesses des dieux assurent une joie sans égale et ne déçoivent pas. Dieu rend bienheureux ceux qui parcourent jusqu'au bout le chemin de leur pauvreté intérieure, a conclu le pape. Bien auparavant, le Saint-Père a participé dans la plaine de la cité antique d'Our à une rencontre interreligieuse avec les représentants des différentes traditions religieuses irakiennes. Dans son discours, François a fait remarquer que la plaine d'Our était un lieu béni qui reporte aux origines, aux sources de l'œuvre des dieux, à la naissance de nos religions. Ici où vécut Abraham, notre père, il nous semble revenir à la maison. C'est ici qu'il entendit l'appel des dieux. D'ici, il est parti pour un voyage qui devrait changer l'histoire, nous sommes les fruits de cet appel, de ces voyages, a souligné le pape. De ces lieux sources de foi, de la terre de notre père Abraham, a poursuivi François, nous affirmons que Dieu est miséricordieux et que l'offense la plus blasphématoire est de profaner son nom en haïssant le frère. Hostilité, extrémisme et violence ne naissent pas d'une âme religieuse, ce sont des trahisons de la religion. Et nous croyons, nous ne pouvons pas nous taire lorsque les terrorismes abusent de la religion. Au contraire, a noté François, c'est à nous de dissiper avec clarté les malentendus, ne permettons pas que la lumière du ciel soit ouverte par les nuages de la haine, a exhorté le Saint-Père. Le pape a conclu son discours en appelant tous les participants à cette rencontre interreligieuse à s'engager afin que se réalisent les rêves des dieux, que la famille humaine devienne hospitalière et accueillante envers tous ses fils, qu'en regardant le même ciel, elle chemine dans la paix sur la même terre. Toujours samedi dans la matinée, le pape avait rencontré à Najaf le grand ayatollah al-Sistani, principale autorité religieuse chiiste en Irak. François a évoqué au cours de cet entretien privé l'importance de la collaboration et de l'amitié entre les communautés religieuses afin qu'en cultivant le respect réciproque et les dialogues, on puisse contribuer au bien de l'Irak, de la religion et de l'humanité entière. La rencontre a été l'occasion pour le pape de remercier les grands ayatollah al-Sistani car avec la communauté chiiste, face à la violence et aux grandes difficultés des années passées, il a élevé sa voix en faveur de la défense des plus faibles et des persécutés, en affirmant la sacralité de la vie humaine et l'importance de l'unité du peuple irakien. En prenant congé du grand ayatollah, le Saint-Père a réitéré sa prière à Dieu, créateur de tous, en faveur d'un avenir de paix et de fraternité pour la bien-aimée terre irakienne, pour le Moyen-Orient et pour le monde entier. Le Saint-Père a accepté samedi la démission au gouvernement pastoral du diocèse de Matadi en République démocratique du Congo, présentée par Mgr Daniel Landou. Le pape est arrivé vendredi à Bagdad en Irak aux environs des 14h heure de Bagdad, soit 12h heure de Rome, après 4h30 de vol, débutant ainsi son 33e voyage apostolique. Il a été accueilli à l'aéroport par le premier ministre irakien, M. Mustafa Matsa, connu sous les noms des Al-Kaldimi. Le premier rendez-vous du pape était au palais présidentiel, où il a rencontré les autorités irakiennes, la société civile et le corps diplomatique dans ces pays. Toujours vendredi, le pape a rencontré dans l'après-midi, dans la cathédrale Notre-Dame du Salut de Bagdad, les évêques, les prêtres, religieuses et religieuses, séminaristes et catéchistes. Signalons que François est le premier pape à fouler la terre où Dieu a appelé Abraham, père des trois religions du livre et symbole de l'espoir pour continuer de marcher dans l'espérance et n'est jamais cessé de regarder les étoiles, lui qui plaça toute sa confiance en Dieu. Au cours de son voyage vers l'Irak, le pape a envoyé des télégrammes au président des pays survolés par son avion, le présentant ses vœux d'unité, de paix et de prospérité. Il s'agit de l'Italie, de la Grèce, du Chypre, de la Palestine, d'Israël et de la Jordanie. Avant de quitter Rome, le Saint-Père a passé quelques instants avec une douzaine d'Irakiens accueillis par la communauté Saint-Égidio qui se sont récemment réfugiés en Italie en provenance d'Irak. La veille de son voyage pour l'Irak, les jeudis 4 mars dernier, le pape s'était rendu à la basilique de Sainte-Marie-Majeure de Rome pour prier devant l'icône de la Vierge Salus Populi Romani. Il s'agit d'un rendez-vous traditionnel et habituel auquel le pape ne renonce jamais, ni avant ni après ses voyages à l'étranger. Au cours de l'audience générale qu'il avait tenue mercredi matin dans la bibliothèque du palais apostolique, le pape avait centré sa catéchèse sur la prière, montrant comment grâce à Jésus, la prière nous ouvre à la Trinité, à la mère immense de l'amour des dieux. Le pape avait exprimé mercredi sa joie et sa gratitude pour la traduction de sa lettre encyclique Fratelli Tutti en russe, traduction faite par les forums internationaux musulmans de la Fédération des Russies. Tout en suggérant sa lecture aux hommes et aux femmes de bonne volonté, le Saint-Père pense que la réflexion et les dialogues sur cette encyclique peuvent être utiles non seulement à la Fédération des Russies où les dialogues entre chrétiens et musulmans est appelé à s'y développer, mais aussi à la famille humaine dans son ensemble. Au cours de ce mois de mars, le pape nous demande de prier pour vivre le sacrement des réconciliations avec une profondeur renouvelée afin de goûter l'infinie miséricorde des dieux.
L'actualité de l'Église se poursuit avec la session de formation permanente au diocèse de Cabinda en République démocratique du Congo.
Quelques 200 agents pastoraux venus des 31 paroisses du diocèse de Cabinda dans la province de la Lomami se sont retrouvés autour de leur évêque, Mgr Félicien Tamboué, du 1er au 4 mars pour une session de formation permanente. En sa première année d'épiscopat, l'évêque de Cabinda a placé la rencontre sous le thème « Gestion économique et financière des paroisses et relance du diocèse de Cabinda ». Le père Victor Lombé, missionnaire de Skeut, a été l'expert convié comme modérateur. Pour relancer les finances du diocèse et pour l'engager sur le chemin de l'autofinancement, il faut en tout premier lieu développer le sens de l'appartenance, du lien intime de chaque membre au diocèse, a conseillé le père scutiste, avant d'affirmer notamment le besoin d'une collecte de fonds pour sortir de la mendicité.
Avant de parler d'investir, on devrait dire s'investir.
Lors de la cérémonie de clôture de la session de formation, le jeudi 4 mars, Mgr Félicien Tamboué a notamment déclaré qu'avec la diminution, voire l'absence de subsides venant de Rome pour les diocèses d'Afrique, il faut, à Cabinda comme ailleurs, inventer d'autres chemins de financement de la mission et des chemins de la liberté contre la mendicité.
Il faudra ajouter beaucoup de volonté, une action renouvelée. Et celle-ci doit être soutenue par des nouveaux schémas mentaux et une nouvelle foi dans le Seigneur.
Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
En Côte d'Ivoire, cérémonie de clôture de la session de formation sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables organisée par la conférence épiscopale.
Durant 48 heures, une trentaine de membres des bureaux de signalement en provenance des 15 diocèses de la Côte d'Ivoire ont été instruits sur plusieurs thématiques traitant les aspects culturels, canoniques et psychologiques des abus mais également les normes et procédures relatives aux abus sur les mineurs dans le droit ivoirien. L'écoute n'étant pas seulement spirituelle, ces bureaux de signalement ont été invités à être soutenus par une équipe des personnes ressources dans l'exercice de cette mission. Le père Emmanuel Ouina, secrétaire général de la conférence épiscopale ivoirienne, au terme de cette formation, a insisté sur la pluridisciplinarité des équipes, une composition qui puisse prendre en compte des hommes et des femmes, des laïcs, de religieux et religieuses, des prêtres, des psychologues, des psychiatres, des juristes, d'enseignants, des personnes connues et dignes de confiance devant lesquelles les victimes pourront librement parler. Il a exhorté les 10 membres à être des personnes très prudentes et avoir un esprit de discernement très poussé dans l'exercice de leurs tâches à leur confier par l'Église. Sœur Solange Sia, directrice du Centre de protection des mineurs et des personnes vulnérables d'Abidjan, à l'issue de cette session, a souhaité de voir le prolongement de cette formation dans les différentes paroisses, mouvements et associations, afin que tous prennent conscience de la réalité des abus sur mineurs et ses spécificités. Marcel Ariston Blé, Yam Soukro, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les électeurs de Côte d'Ivoire votaient samedi pour choisir leurs députés avec l'espoir que ce scrutin permettra d'apaiser la vie politique de leur pays 4 mois après une présidentielle agitée. Pour la première fois depuis 10 ans, l'ensemble des principaux acteurs politiques participent à ces législatives, alors que l'opposition avait boycotté la présidentielle du 31 octobre 2020, marquée avant et après le scrutin par des violences ayant fait 87 morts et près de 500 blessés. L'Internet a été rétabli vendredi soir au Niger après 10 jours de coupure à la suite des troubles qui ont éclaté à l'annonce de la victoire du candidat du pouvoir Mohamed Bazoum à la présidentielle du 21 février. Par ailleurs, 17 tonnes de résine cannabis d'une valeur marchande de 20 milliards de francs CFA, soit plus de 30,4 millions d'euros en provenance du Liban via le port togolais de Lomé, ont été interceptés par les autorités nigériennes, une saisie record dans ce pays. C'est ce qu'a expliqué Alkash Alada, ministre nigérien de l'Intérieur, au cours d'une cérémonie de présentation de la drogue saisie à la presse. Les autorités sénégalaises ont promis de ramener l'ordre après des scènes de guérilla urbaine ayant fait officiellement 4 morts entre les forces de l'ordre et des jeunes réclamant la libération de l'opposant Ousmane Sonko, dont l'arrestation a libéré une exaspération accumulée devant la dureté des conditions de vie. Vendredi soir, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit très préoccupé et a appelé à éviter une escalade.
Radio Vatican, France et Afrique, Marie-Josée Moindo.
Des milliers d'Algériens ont manifesté vendredi à Alger et dans d'autres villes du pays, enracinant la mobilisation du mouvement pro-démocratique du Irak qui a repris ses marches fin février. Depuis le 2e anniversaire du soulèvement populaire le 22 février, les manifestants du Irak ont repris leur marche du vendredi, jour de mobilisation hebdomadaire du mouvement avant sa suspension il y a 1 an en raison de la pandémie de coronavirus. La police somalienne a annoncé que plus de 10 personnes ont été tuées vendredi soir par l'explosion d'un véhicule piégé revendiqué par les islamistes Shebab contre un populaire restaurant de la capitale somalienne Mogadiscio. Le Cameroun va recevoir à brève échéance plus d'1 million de doses de vaccins anti-Covid. C'est ce qu'a annoncé vendredi le Premier ministre Joseph Dion Nguté en faisant état d'une détérioration de la situation épidémiologique dans le pays, l'un des plus touchés en Afrique. La vaccination se fera sur la base du volontariat, a-t-il poursuivi, tout en encourageant la population à se faire vacciner, le pays faisant face à une détérioration de la situation épidémiologique. Le Congo-Brazzaville a officiellement frappé vendredi les 3 coups de la campagne pour l'élection du 21 mars, pendant laquelle le président Denis Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 au pouvoir, va de nouveau solliciter la confiance de la jeunesse du pays. Originaire d'Oyo, dans le centre nord du pays, le président sortant a lancé sa tournée électorale depuis la capitale économique et pétrolière Pointe-Noire. Le principal opposant au Tchad, Salé Kebzabo, a annoncé vendredi son intention d'empêcher pacifiquement le déroulement de la présidentielle du 11 avril, à laquelle il a retiré sa candidature et dont Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990 est le grandissime favori. Aucune action violente ne sera menée pour stopper le déroulement de cette élection, a répété M. Kebzabo, qui a retiré le 1er mars sa candidature à la présidentielle. Nicolas Nguema, opposant au président gabonais Ali Bongo Ondimba, est sorti de prison après avoir passé plus de 2 mois en détention provisoire dans une affaire d'escroquerie, c'est ce qu'a affirmé vendredi son avocat. La police sud-africaine et les services spécialisés étaient vendredi toujours à la recherche d'un nombre inconnu de crocodiles échappés en début de semaine d'une ferme d'élevage de la région du Cap dans le sud du pays. Jusqu'à présent, 34 crocodiles du Nil mesurant entre 1,2 et 1,5 mètres ont été capturés, a indiqué vendredi Cape Nature, un service gouvernemental de protection de la nature. Le Kenya a lancé vendredi sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec une première phase ciblant les personnels médicaux, alors que de premiers lots de vaccins sont également déployés dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Est. Au Kenya, le directeur général du ministère de la Santé, Patrick Amoth, a été le premier à recevoir le vaccin à l'hôpital national Kenyatta dans la capitale Nairobi. La méditation des textes liturgiques du dimanche avec le père jésuite Adrien Lentiampa.
Chers frères et sœurs, nous sommes déjà au troisième dimanche du temps de carême, à mi-chemin vers Pâques. C'est pourquoi les différentes lectures de ces jours tournent autour du mystère de la mort et résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il en est ainsi dans l'Évangile qui est proposé à notre méditation. Il est encadré par l'évocation des deux Pâques. Au début, il est question de la Pâque juive, qui célèbre la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. La fin de l'Évangile parle du sanctuaire du corps du Christ et de sa résurrection des morts. À travers cette nouvelle Pâque vécue dans son propre corps, le Christ s'offre pour nous libérer de tout esclavage. Il renouvelle et accomplit l'alliance dont il est fait mention dans la première lecture. Quant à la deuxième lecture, saint Paul nous y rappelle que c'est par sa crucifixion que Jésus se révèle à nous comme puissance et sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons rien chercher en dehors de ces mystères. Je dirais, nous contenter du Christ crucifié, quand bien même cela puisse paraître une folie ou un non-sens. Ainsi donc, à travers toutes ces lectures, nous sommes invités à faire du Christ crucifié notre unique fierté et notre unique gloire. Et comment savoir concrètement que le Christ mort et ressuscité est notre unique fierté? Le geste de Jésus au temple, que nous relate l'évangile d'aujourd'hui, nous répond « Rappelons d'abord que le commerce qui se faisait au temple de Jérusalem permettait l'acquisition des bêtes pour les sacrifices rituels. En renversant ces commerces, Jésus interroge la manière de vivre la religion et pour nous aujourd'hui, notre manière de vivre le carême. Il ne s'agit pas de se limiter à des pratiques extérieures consistant à l'accomplissement de quelques rituels. Il nous faut nous attacher au sanctuaire même du corps de Christ, devenu l'unique lieu de notre salut. Pour cela, nous devons renoncer à tout ce qui, petit à petit, peut prendre la place de cet attachement exclusif au Christ, mort et ressuscité. C'est dans ce sens que, alors que parfois nous sommes tentés de chercher ailleurs signe et sagesse, saint Paul nous invite à ne chercher que le Christ seul, le Messie crucifié, car c'est sur la croix que Jésus nous révèle le vrai nom de Dieu, Abba Père, faisant ainsi de nous des fils dans l'unique Fils. Ainsi donc, puisque le temps de carême nous prépare à célébrer la gloire du crucifié, nous sommes invités à nous départir de toute idolâtrie et de toute fausse religiosité et divinité. Le livre de l'Exode nous le rappelle. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre. Profitons donc de ce temps qui nous reste dans notre marche vers Pâques pour identifier les nombreuses idoles qui peuplent nos vies et nos pratiques religieuses. Toutes ces idoles devant lesquelles, jour après jour, nous nous prosternons, avalissant ainsi notre identité de fils de Dieu. Demandons au Seigneur de nous aider à nous en débarrasser, qu'il nous donne de trouver dans la Pâque du Christ Jésus notre unique fierté et notre unique joie. Amen.
Enfin, le document du magistère Fratelli Tutti avec le père jésuite Martin Bahati.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la lecture du premier chapitre de la lettre encyclique Fratelli Tutti du Saint-Père François sur la fraternité et l'amitié sociale. Rappelons que ce chapitre est intitulé « Les ombres d'un monde fermé ». La fois passée, nous avons lu la partie concernant les pandémies et autres chocs de l'histoire. Aujourd'hui, nous focalisons notre attention sur le point qui parle de sans dignité humaine aux frontières. Dans ce point, le pape montre comment, dans le milieu de certains régimes politiques populistes et sur la base d'approches économiques libérales, on soutient que l'arrivée des migrants doit être évitée à tout prix. Dans le même temps, on affirme que l'aide aux pays pauvres devrait être limitée, afin que ces pays touchent le fond et décide de prendre des mesures d'austérité. Selon l'encyclique, ces déclarations ne tiennent pas compte de la destruction de nombreuses vies humaines. Le pape cite les personnes qui échappent à la guerre, aux persécutions, aux catastrophes naturelles. Il n'ignore pas, par ailleurs, que d'autres sont en quête d'opportunités pour elles et pour leurs familles. Divers motifs poussent les migrants à l'exil, et certains, sans aucun doute, sont attirés par la culture occidentale, nourrissent parfois des attentes irréalistes qui les exposent à de lourdes déceptions. Ainsi donc, l'encyclique cite quelques bavures que rencontrent les migrants. Il note à cet effet les trafiquants sans scrupules, souvent liés aux cartels de la drogue et des armes, qui exploitent leurs faiblesses. Ces migrants se heurtent aussi tout au long de leur parcours, à la violence, à la traite des êtres humains, aux abus psychologiques et même physiques et à des souffrances indicibles. L'encyclique continue en montrant que dans certains pays d'arrivée, les phénomènes migratoires suscitent des alarmes et des peurs souvent fomentées et exploitées à des fins politiques. Une mentalité xénophobe de fermeture et de repli sur soi se diffuse alors. Dès lors, le pape attire l'attention en stipulant qu'il est inacceptable que les chrétiens partagent cette mentalité et ces attitudes, faisant parfois prévaloir certaines préférences politiques sur les convictions profondes de leur foi. La dignité inaliénable de chaque personne humaine, indépendamment de son origine, de sa couleur ou de sa religion, est la loi suprême de l'amour fraternel.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers amis, c'est la fin de cette émission. Marie-Josée Moindo-Boisboislo qui vous l'a présentée vous dit merci de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt. Laudetur Jesus Christus.